Les rendez-vous santé d'Africa numéro 1, la prévention, en partenariat avec Santé publique France.
Alors que le sujet de la migration est au cœur de tous les débats politiques et économiques, nous allons ce matin avec nos invités apporter un éclairage sur les conséquences de la migration sur la santé comme la dépression, la psychose de l'exil, toutes les difficultés rencontrées, les conditions difficiles du parcours migratoire, les violences, la peur, puis ensuite la difficulté d'adaptation, des ressources économiques beaucoup plus faibles, la séparation familiale, les expériences sociales négatives comme la discrimination, par exemple, bref, ce qui peut être considéré dans son ensemble comme un stress important de plus, ou moins longue durée, elle peut être un facteur de risque au développement d'une dépression. On en parle ce matin. Alors, comment repérer les signes d'une dépression? Comment savoir si on a besoin d'être accompagné? Quelles sont les aides qui existent? On en parle avec nos invités. Avec vous, le docteur Andrea Tortelli. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes psychiatre auprès du réseau psychiatrie et précarité de la ville de Paris et vous intervenez à l'hôpital Maison Blanche. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Et avec nous au téléphone, c'est Janani Jéga-Nathan. Vous êtes psychologue clinicienne à l'hôpital de Marne-la-Vallée. Vous intervenez également auprès de l'association Sunjata Keita. C'est un centre de médiation culturelle et d'aide psychologique aux familles migrantes. Merci également de vous être rendu disponible. Alors, c'est un constat, hein, les migrants sont plus fortement touchés par la dépression, l'anxiété, la psychose, les troubles du sommeil, les troubles addictifs que le reste de la population. Une personne migrante a 3 fois plus de risques de développer des signes de dépression et de psychose. Alors on comprend bien qu'avec ces situations difficiles, ces voyages qui ont été peut-être pour certains éprouvants, les conditions dans lesquelles on se retrouve ici en France à essayer de se chercher. Ce sont des situations qui sont lourdes et qui sont psychologiquement pas très faciles à gérer. Docteur, bonjour.
Bonjour. En effet, ce que vous dites, c'est pas tous les migrants, toutes les personnes migrantes qui vont être à risque, mais en effet, l'expérience de la migration, elle va porter quand même un cumul d'expériences négatives et qui peuvent augmenter le risque de maladie mentale.
Alors, vous voulez peut-être réagir, Janani?
Oui. La migration, oui, comme le disait le médecin, est un facteur de vulnérabilité en soi. Mais il faut aussi voir tout ce que ces personnes ont subi dans leur pays d'origine avant même de migrer. C'est-à-dire qu'il y a aussi les raisons politiques qui ont poussé ces personnes à quitter leur pays. Et dans ces raisons politiques, il y a tout ce qui est de l'ordre de la torture, des maltraitances et des violences qu'ils ont pu vivre. Et du coup, quand ils arrivent ici avec toutes ces violences qu'ils accumulent, hein, les traumatismes multiples qu'ils ont subis, ils sont en très grande difficulté déjà quand ils arrivent. Oui. Les conditions d'accueil dans le pays, sur le sol français, est encore plus difficile pour eux.
Alors, quels sont les...
Oui. Oui, dites-moi.
Allez-y, terminez, excusez-moi.
Oui, du coup, je disais que les conditions d'accueil sur le territoire français étaient encore plus une source de violence et de stress pour ces personnes-là.
Alors, docteur, sans prise en charge, quels sont les risques et les conséquences sur la santé de ces personnes?
En effet, ça peut commencer très, très, très... très facilement des troubles de sommeil, de une anxiété. Et si c'est pas pris à risque à temps, ça risque, bon, il y a un risque d'aggravation importante et après de prise en charge plus difficile et plus compliquée pour la personne. Un risque d'être moins facile de revenir à son état de base de fonctionnement.
Alors, nous allons écouter un petit micro au trottoir enregistré par Geneva dans les rues de la capitale sur le moral des migrants. On les écoute et on se retrouve juste après, mesdames.
Hier, on a eu lit aussi avec mon matelas. Donc, c'est ici que je dors. Donc, il y a 2 personnes qui dorment à côté de moi. C'est comme ça. Il n'y a pas question que souffrance, ça va arrêter. Ça va augmenter toujours. Donc, il y a des gens qui... Ils ont perdu leur esprit. Tu marches sans habit, puis comme ça, tu vas sur la rue. Donc, je pensais qu'à nous aussi, ça va arriver. Si quelqu'un n'a pas fait attention, c'est notre destin.
Bon, j'ai quitté le Nigeria suite aux problèmes politiques. Après, je suis allé me réfugier en Libye. j'allais de ville en ville et ça m'a fallu beaucoup de temps. Je ne sais pas ce qui va arriver demain. Je me bats très fort pour arriver à faire un truc de jour en jour, mettre un pas de l'avant.
Moi, c'est 34 ans. C'est arrivé en 2016, au Sénégal. Moi, c'est le clandestin dans l'Italie.
Par l'Italie ?
Oui.
Donc par un bateau ?
Oui, ouais, c'est par le bateau. Depuis moi, je suis arrivé ici, c'est faire des demandes d'asile. Je dors dans la métro. Oui, puis on n'a pas famille ici.
Le pays vous manque ?
Oui, oui, c'est toujours. Ma mère, elle est là. Mon père, il est là. Il est seul là. Moi, je suis arrivé ici, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de tout. Parce que ce n'est pas facile à manger.
J'ai 25 ans, bientôt 26. Je suis d'origine sénégalaise. Je suis arrivé en France en septembre 2014, donc depuis 4 ans et demi. Je suis tout seul. C'est compliqué, on s'adapte, on apprend parce que un petit peu ça change de la culture un petit peu africaine qui est très familiale. On reste très longtemps loin de sa famille et donc forcément aussi quand il y a les problèmes, on n'a pas forcément des personnes avec qui échanger là-dessus parce que par exemple moi quand j'ai des soucis, je n'appelle pas ma famille pour en parler parce qu'ils sont loin, ils vont pas forcément pouvoir m'aider. Ça va juste servir à ce qu'ils s'inquiètent. C'est compliqué. Malgré tout, je suis quand même, je parle pour moi, assez solide sur le plan psychologique. J'ai été préparé pour aussi. Donc là-dessus, je peux avoir des moments, par exemple, il y a encore 3 semaines, c'était un peu compliqué. Ça a duré cette fois-ci très longtemps, mais une semaine, mais ensuite j'arrive toujours à me relever. Moi j'ai connu les personnes qui, comme vous le dites, sont peut-être moins forts et moins armés que moi. Et là-dessus, tout de suite, ça devient beaucoup plus compliqué. J'ai connu des gens qui étaient venus ici pour faire leurs études et qui ont dû abandonner au bout de 2 ans. Aujourd'hui, ils se retrouvent sans papier et du coup, ils ne savent pas quoi faire. Ils ne veulent pas rentrer parce que... Ils se disent aussi, si je rentre, j'étais allé en mission, aujourd'hui je rentre bredouille quelque part, ils ne veulent pas y aller et du coup ils se retrouvent ici, de foyer en foyer, et c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. C'est important de ne pas lâcher, c'est important, comme je le dis souvent à mes proches ici, c'est en fait d'être têtu, borné, tout ce que vous voulez, mais il ne faut jamais lâcher, on passe tous par des moments difficiles et à un moment ou à un autre, il faut continuer à se battre.
Alors on le voit bien là, les désillusions, la pression également que l'on subit de la part de la famille restée au pays et qui a beaucoup d'attentes. Et puis tout ce parcours, toutes ces conditions, ce sont quand même des conditions qui sont assez compliquées hein, pour ces personnes. Alors quelles sont vos réactions, Janani Jeganathan? Qu'est-ce que vous avez envie de dire après avoir entendu ce micro-trottoir?
Oui, alors on entend surtout chez ce monsieur la question de la survie. Hein. Il essaye de survivre malgré tout. Alors comme il explique bien, il y a toute la perte des repères, donc les repères du pays, il y a une perte d'identité. Il arrive dans un nouveau pays où il ne s'y retrouve pas. Il perd son statut aussi. Il n'y a rien qui l'accroche. Il est complètement livré à lui-même, et comme il explique, il ne bénéficie plus de l'enveloppe familiale et groupale. Il vient d'un pays où le groupe joue un rôle important, le soutien, et ici, il n'a plus cette protection-là. Et du coup, il est dans une errance, mais il est surtout dans la question de la survie. Donc, il lutte chaque jour pour venir à ses besoins primaires qui sont vraiment se nourrir, se loger, s'habiller. Et tant que ses besoins, comme je le vois dans ma clinique actuelle, tant que ses besoins ne sont pas satisfaits, un travail d'élaboration psychique n'est pas possible. C'est-à-dire que on peut pas faire une prise en charge psychologique tant que la personne est dans une errance. Est toujours dans l'errance, n'arrive même pas à se nourrir, s'habiller, et dans la rue, ça reste très très compliqué de pouvoir entamer un travail psychologique.
Voilà. Alors justement, dans ce sens, docteur Andrea Tortelli, on voit quand même que ces personnes ont du mal à demander de l'aide, à mettre des mots sur leurs mots, à se dire, et voilà, il va falloir que je m'occupe également de mon état de santé.
Oui, en effet, c'est ce qu'a dit la collègue, c'est pas la priorité. Et c'est pour ça que ce qui est important, c'est nous travaillons, nous sommes une équipe mobile, donc on va vers ces personnes qui sont à la rue, qui sont dans les centres d'hébergement et qui parfois sont pas à la demande. Mais c'est l'entourage, c'est le cadre qui aperçoit cette souffrance-là et qui fait appel à nous.
Alors justement, vous vouliez insister sur ce fait, de dire qu'il est important que l'entourage essaye aussi, de lorsqu'elle décèle, qu'il y a des problèmes psychologiques, de venir en aide à ces personnes. C'est très important de dire, voilà, on s'adresse aux personnes concernées, mais on s'adresse également aux personnes qui les entourent, qui les côtoient, qui les rencontrent dans la rue ou ailleurs.
Oui, c'est très très important parce que lorsqu'une personne est dans une grande souffrance psychologique, et en effet, la priorité c'est trouver à manger, voilà, elle se rend pas compte qu'elle à un moment donné qu'elle va se perdre. Donc c'est l'entourage qui va être attentif et qui va faire appel.
Alors au téléphone, c'est Aminata qui voulait témoigner. Bonjour Aminata.
Bonjour Aïssa.
Merci de nous rejoindre. Allez-y, nous vous écoutons.
Oui, bonjour tout le monde, bonjour aux deux invités qui sont sur le plateau d'Africa numéro 1. Je m'appelle Aminata, je suis la présidente de l'association Djamadigui on intervient, on est un réseau d'entraide entre femmes et mères.
Oui.
Et on a un peu de solidarité aux plus démunis et toutes les semaines, tous les vendredis soirs, on fait des maraudes auprès des femmes, des migrantes, des personnes qui sont dans des centres d'hébergement. Et le thème d'aujourd'hui me touche énormément parce qu'avec mes collègues, on est énormément confrontés à la dépression de ces femmes migrantes.
Et comment ça se caractérise et comment vous en parlez avec elles?
Bah alors en fait, nous, notre association, on distribue de la nourriture. Voilà, je rejoins tout à fait ce qu'a dit le médecin. On apporte à manger. Et après, le climat de confiance s'installe. Et généralement, les personnes, on prend le temps, surtout on prend le temps de leur parler, oui, de les écouter. Et petit à petit, commencent un petit peu à parler, mais c'est difficile en fait. C'est très difficile pour nous de les amener à parler. Parce que la plupart du temps, en fait, elles ont ce masque. Et notamment, j'ai le témoignage d'une maman qu'on suit, qui a voulu faire ce témoignage anonymement.
Oui.
Et elle me disait, voilà, le masque, vous me voyez, Aminata, je rigole et tout, je fais tout, vous me voyez, je mets des tenues extravagantes, mais c'est pour cacher.
Ouais, c'est dur de déceler, en fait, qu'elles sont mal dans leur peau, en fait.
Voilà, c'est dur de déceler. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup des migrants, mais dans les migrants, il n'y a pas que des hommes, il y a aussi des femmes,
ouais, c'est
et
vrai,
des enfants. Il y a des femmes et des enfants, et elles sont plus sujettes aux tortures, aux viols. On a plusieurs migrantes qu'on suit, qui ont été violées, qui sont enceintes. Elles ne connaissent même pas le père de leurs enfants. Il y en a d'autres qui ont été torturées. Il y en a qui ont été menacées de mort. Voilà, elles sont dans une grande souffrance psychologique. Et nous, quand on fait nos maraudes, c'est vrai qu'on prend le temps de parler avec elles. On essaye de les rediriger vers...
Les structures adaptées. Ouais.
Voilà, mais je ne peux pas vous cacher que c'est très, très...
Mais pourquoi, très pourquoi en fait, d'où vient le frein? Pourquoi elles ont du mal à se faire aider?
Alors, elles ont peur, parce que pour elles, psychologue, ça veut dire folle, ça veut dire fou. Elles ont peur de livrer leur bagage, de décharger ce poids-là, et qu'on leur prenne leurs enfants. Ça, c'est leur mot. C'est ce que cette femme-là m'a dit. J'ai peur qu'on prenne ma fille si jamais, voilà, je lui dis, elle a un passé qui est très lourd, elle a été violée plusieurs fois, elle a été victime d'inceste, elle a été torturée, elle fait des tentatives de suicide. Et les répercussions sur son physique sont énormes. La nuit, elle ne dort pas, elle a des crises de boulimie, elle fait que manger. Et voilà, elle a besoin de rester seule dans le noir. Et en fait, elle vit la journée en mettant ce masque-là, mais elle pleure énormément, elle mange pas. Les répercussions sur le physique sont énormes. Elle voit la vie en noir, pour elle sert à rien. Je sers à rien, Minata, je suis là, je ne pense pas qu'un jour dans ma vie, je serai heureuse. Je pense pas qu'un jour dans ma vie, je serai heureuse. Moi, pour moi, le malheur est collé à ma peau, je serai jamais heureuse.
Docteur, oui, c'est terminé, Minata?
Et puis, il y a ce côté-là de l'Eldorado, ils sont aussi sujettes à la discrimination.
Ouais.
Et voilà. Et je vais laisser aussi la parole.
Alors, allez-y, docteur, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Je pense que c'est un cas, en fait, qui vous parle.
Énormément.
Ouais.
Énormément, parce que ce qu'il dit, en effet, c'est l'impact aussi sur les enfants. Donc, la souffrance des mères qui essaient de cacher parce qu'il faut tenir, mais il y a quand même un impact sur les enfants.
Mmh.
Et donc, c'est vrai que il y a cette peur, mais qui, là, il faut, je pense qu'il faut un travail de, ils font très bien, les maraudes, ce travail d'information en disant qu'au contraire, si elle demande de l'aide, ça montre qu'elle veut bien s'occuper d'elle et de son enfant. Donc, c'est ça l'argument qu'il faut amener.
Alors, continuez à insister, continuez de lui parler. Peut-être qu'un jour, elle répondra favorablement lorsqu'on lui propose.
Et oui, et surtout, peut-être pas un psy, si ça fait peur un psy tout de suite. Il y a des médecins généralistes qui savent très, très bien faire les diagnostics, traiter, y orienter si c'est plus grave. Donc, ça peut aussi diminuer le frein pour aller vers les soins.
Merci en tout cas pour votre témoignage, Aminata. Merci. Et puis, on vous souhaite beaucoup de belles choses. Et puis, bon courage à vous et à vos collègues.
Merci beaucoup.
À très bientôt. Journée. Merci beaucoup pour votre témoignage. On va prendre à présent Muriel rapidement. Oui. Bonjour Muriel, bienvenue.
Mais bonjour à tous.
Alors vous
bonjour
dites, j'héberge de jeunes mineurs migrants et cette nuit j'ai pris la décision de faire interner une personne que je connais depuis 3 ans.
Oui, tout à fait. Donc excusez-moi parce que je suis encore sous le coup de l'émotion, de la frustration et de la colère et de mon grand sentiment d'impuissance. Donc là je vais vous parler donc de ce jeune dont j'ai pris la décision.
Allez-y
de demander
rapidement.
L'internement. Oui, tout à fait.
Pourquoi Muriel?
Parce que avec mes mots et qui ne sont pas ceux d'un médecin, il s'est écroulé de manière très violente, même si ça ne remonte pas tout de suite, mais là il y a eu vraiment une dégradation très importante et à mon avis qui mettait sa vie en danger ces dernières semaines. Alors je n'ai pas écouté là, les dernières minutes, mais moi il me semble important de dire aussi que une des très grandes souffrances qui provoque chez eux encore plus de difficultés, c'est que une fois arrivés dans les pays d'accueil, et je mets des guillemets à accueil, c'est que entre autres leur identité est sans cesse questionnée et remise en cause.
Oui.
Donc ça c'est un facteur.
Les contrôles
aggravant.
Incessants.
Non, ce n'est pas simplement les contrôles incessants, c'est que quand vous êtes mineur, on vous demande de faire la preuve de votre minorité. C'est-à-dire qu'on ne croit pas votre parole. C'est-à-dire qu'on ne, pour eux, et pour certains d'entre nous aussi, on ne croit pas ce qu'ils sont. On leur demande de faire la preuve.
De justifier qu'ils sont mineurs, en fait.
Moi, on ne me demande pas de faire la preuve de qui je suis. Je dis quelque chose, normalement, ça va être pris pour argent comptant. Pour eux, ce n'est pas pris par argent comptant, et ça veut dire, entre autres, des mois, voire des années de parcours administratif avec des labyrinthes, etc. La deuxième chose que j'ai remarquée, c'est que pour ceux, parce que j'héberge des mineurs, voire des jeunes majeurs, qu'ils soient demandeurs d'asile ou non demandeurs d'asile, et au vu de ceux que je connais depuis des années, ils ont été dans un système de survie dur de par leur aventure, entre guillemets, ou voyage selon les pays, la manière dont ils l'expriment. Ils ont été en mode de survie pure et dure. Ils arrivent ici. S'ils peuvent se poser un tant soit peu, parce qu'ils ne sont plus, entre guillemets, dans le même danger qu'ils peuvent être dans les pays d'où ils viennent ou les pays qu'ils ont dû traverser, ils soufflent un petit peu. Et là, c'est comme un effet de barrage qui éclate. Ce barrage éclate, donc il y a tout qui revient, tout qui remonte, et en même temps, de manière concomitante, ils sont confrontés aux difficultés propres au pays d'accueil, entre guillemets. Faire la preuve de son identité, trouver à manger, trouver de quoi dormir.
Muriel, je vais être obligée de vous interrompre parce que il ne reste pas beaucoup de temps, mais en tout cas, merci, merci beaucoup pour votre témoignage qui est très intéressant. Merci. Peut-être que Janani Géganaton voulait réagir rapidement sur ce témoignage.
Oui, effectivement, je reçois pas mal de mineurs non accompagnés, anciennement mineurs isolés, et la question de la vérité, c'est-à-dire qu'ils ont, ils doivent sans cesse prouver qu'ils sont mineurs, qu'ils sont en danger, qu'ils ont besoin d'être protégés, et le fait de ne pas être cru, ça peut provoquer un effondrement. Donc, la plupart, ils ont, comme le dit très bien madame, ils ont tout un parcours ou d'errance où ils doivent prouver qu'ils sont mineurs et c'est
assez compliqué, on le comprend.
C'est très très compliqué parce que une fois qu'ils ont le statut de mineur non accompagné, ils peuvent être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, mais sans ça, ils se retrouvent dans la rue. Et même les tout seuls à l'enfance, c'est jusqu'à 18 ans. Et 18 ans, un jour, ils sont dehors. Donc c'est reparti pour toute une période d'errance et de souffrance.
Alors là, il nous reste 5 minutes, docteur. On va essayer quand même d'apporter des clés, de guider les personnes concernées. Alors, est-ce que vous pouvez rapidement nous dire les symptômes pour qu'on puisse aussi les reconnaître? C'est vrai que ce n'est pas évident lorsque les personnes mettent leur voile, comme le disait tout à l'heure la personne qui témoignait. Et comment se faire aider? Qui consulter? Comment s'y prendre?
Par rapport aux symptômes, je pense que ce qui est le plus important, c'est le sommeil, c'est-à-dire quelqu'un qui commence à mal dormir, qui n'arrive plus parce qu'il pense trop, parce qu'il est angoissé, il est irritable. Donc ça, c'est les premiers signes. Il faut vraiment être attentif parce que si on ne soigne pas le sommeil, après, ça peut s'aggraver. Donc l'entourage, le plus important, même la personne qui se rend compte si elle ne dort pas bien, ça c'est très important. Après, en effet, il y a des gens qui ne vont pas montrer, et culturellement aussi, c'est un peu la honte de montrer qu'on est triste. Ça veut dire qu'on est faible, alors que c'est des vrais héros pour moi. Mais voilà, il faut tenir, mais le sommeil, après, si c'est plus grave, s'il s'agit d'une psychose, oui, un comportement un peu bizarre, un peu désorganisé, une espèce de burn-out, qui est vraiment dépassé par les événements.
Alors, comment se faire aider? Qui consulter? Le médecin généraliste, vous en parliez tout à l'heure. Le psychiatre également, c'est un médecin spécialisé dans les maladies mentales et les traitements. Il y a également des dispositifs, comme par exemple la ligne de suicide et infoservice, suicide écoute, pardon, au 01 45 39 40 00. Des centres médico-psychologiques également, les CMP, il y en a, les consultations sont gratuites. Il y a également les équipes mobiles dont vous parliez tout à l'heure, et puis les associations comme celle dans laquelle vous agissez, pardon, Jananis, c'est l'association Maison Sunjata Keita. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots comment on fait, qui peut aider ces personnes dans ces difficultés?
Alors oui, à la Maison Sunjata Keita, une fois que le mineur est reconnu donc mineur, il est pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, et c'est l'aide sociale à l'enfance qui nous l'amène, du coup, qui fait le financement et qui peut permettre cette prise en charge dans notre association.
Alors, allez-y, docteur, reste 2 petites minutes.
Oui, pour les personnes qui sont à la rue, en effet, les maraudes peuvent faire appel aux équipes mobiles précarité. Donc, c'est un service public du pôle psychiatrie précarité de Paris. Donc, ça se trouve facilement sur Internet. Et pour les personnes qui ont une adresse fixe, il y a les centres médico-psychologiques, en effet. Et tout ça, c'est un service gratuit. Donc, pas besoin d'avoir de papier ou quoi que ce soit.
Alors, toutes les informations sur Internet, donc n'hésitez surtout pas pour en savoir un petit peu plus. Comment on pourrait conclure cette émission? Janani Géganathan, qu'est-ce que vous avez envie de dire rapidement pour terminer?
Alors, tout à l'heure, je voulais rebondir sur la question de la prise en charge psychologique. C'est vrai que par rapport à toutes les violences que les femmes ou les hommes ont pu subir, il y a la question de la honte de raconter. Donc, c'est surtout ça qui empêche le travail psychologique. La honte, l'humiliation subie, mais aussi la culpabilité d'avoir pu abandonner les siens ou de ne pas pu agir autrement. Mais il faut dépasser cette honte, cette souillure, cette humiliation et la culpabilité pour pouvoir parler à quelqu'un et se livrer et pouvoir faire un travail sur soi.
Et
dépasser ses peurs et dépasser ses traumatismes.
Alors, docteur, vous nous disiez également que oui, il y a des guérisseurs traditionnels. C'est vrai que certains ont recours à ces pratiques. Vous dites que c'est pas suffisant et qu'une maladie doit être prise en charge par un médecin mais aucune indication. On peut faire les deux
parce que la question, c'est pas traiter les causes. Donc chacun a son explication de son état. L'important, c'est traiter les symptômes. Donc il faut se donner les moyens d'aller mieux.
Merci à toutes les deux d'avoir répondu à notre invitation et d'être venues répondre à nos questions. À très bientôt sur l'antenne d'Africa numéro 1. Toutes les informations seront disponibles sur les réseaux et vous pourrez télécharger cette émission dans quelques minutes. Merci de votre fidélité. Il est 9h54 sur la radio africaine.